ici, la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Dans cette édition, la République centrafricaine, une crise vue par les Centrafricains eux-mêmes.
Si nous restons à nous accuser mutuellement, à dire musulmans, chrétiens, il n'y aura pas d'issue. Ce n'est pas un combat entre musulmans et chrétiens.
Il y a eu changement, mais au départ, tous étaient vraiment perturbés, tous étaient vraiment touchés. Ils avaient vraiment vécu, parce qu'ils ont vu le corps, ils ont vu comment on tuait les gens. Donc tous étaient vraiment stressés.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. Voilà des témoignages, des reportages, des interviews et une foule d'images de la RCA que mon collègue Bagassi Koura nous proposera tout au long de ce Washington Forum après son périple de 2 semaines dans ce pays. Mais d'emblée, un bref rappel des faits avec Jean-Roger Billon.
Des visages et des voix sur un conflit qui a dégénéré depuis mars 2013. La Centrafrique, un pays de 4,5 millions d'habitants, un pays où chrétiens, musulmans et animistes ont toujours vécu ensemble. Mais les violences et représailles ces derniers mois entre ex-Séléka et anti-Balaka ont exacerbé les replis communautaires. Des innocents sont tués ou contraints de fuir. Après beaucoup d'hésitations, la communauté internationale dit vouloir éviter une répétition du génocide rwandais en Afrique. La VOA est allée à la rencontre de ces Centrafricains, victimes d'une guerre qui semble s'éterniser.
Merci Jean-Roger. La République centrafricaine vit donc dans le chaos depuis un peu plus d'une année, connaît ces derniers mois une aggravation des violences entre les milices chrétiennes et anti-Balaka et les ex-rebelles de la Séléka, majoritairement musulmans. D'après les estimations, plusieurs milliers de personnes ont été tuées et 2,2 millions de Centrafricains ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. C'est ce dont Bagassi Koura a été témoin. Bagassi avec moi sur ce plateau, merci d'être là.
Oui, merci.
2 semaines donc en RCA. D'abord, 2 mots sur votre expérience personnelle là-bas.
Oui, ça a été vraiment une expérience pour moi parce que c'était ma toute première fois en République centrafricaine. Je suis arrivé là-bas le 25 mars dernier, c'était un mardi. Et vous vous rappelez que le week-end précédent, il y a eu des violences dans plusieurs quartiers de Bangui, notamment au PK, dans la commune 4 et à la commune 8. Et il y a eu plusieurs dizaines de morts. Et donc, j'arrive à l'aéroport qui est sous la protection des forces internationales. Je sors de l'aéroport après les formalités. Et là, il n'y avait pas de taxi. Il y avait un convoi d'humanitaire d'agents des Nations Unies, un long convoi protégé bien sûr par les forces françaises et de la mission africaine. Il n'y avait pas de place parce que c'était plein. Et finalement, j'ai pu avoir un véhicule avec des jeunes centrafricains. Mais en essayant de partir à l'hôtel, on a dû faire plusieurs détours parce que les populations nous faisaient changer de chemin. Ils nous disaient n'avancez pas, il y a des tirs, n'avancez pas. Cela vous donne un peu une idée de ce que les Centrafricains vivent chaque jour dans la vie quotidienne. Et après Bangui, bien sûr, on a pu sortir de la capitale. Je suis allé jusqu'à Bouar, mm-hmm. qui est à l'ouest du pays, à quelques 450 km de Bangui. On a vu sur la route des checkpoints tenus par des anti-Balaka. Mm-hmm. Certains sont assez jeunes, hein, qui ont la quinzaine. Ils portent des gris-gris qui sont censés les protéger, comme ils le disent. Ils ont des machettes. Certains mm-hmm. même ont des armes à feu. Et chaque fois que les forces internationales avançaient sur ces checkpoints, ces barrages-là, ils fouillaient un peu dans la brousse. Et lorsque les Français ou les missions africaines passent le checkpoint, ils revenaient. Et tous ceux qui passent, qui sont des civils, ils font souvent des raquettes, mais souvent ils vous laissent passer sans rien demander.
Oui, situation difficile d'après l'OCHA. C'est le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. La RCA compte quelques 650 000 déplacés depuis le début de la crise. Hormis les ONG, les religieux sont indubitablement au premier rang dans le combat contre la faim et la violence, même au péril de leur vie. Ils continuent à se mobiliser pour les Centrafricains. Et Bagassi, justement, ce sont des actes de bravoure que vous avez vus sur place, évidemment.
Oui, ce sont des actes de bravoure. Et il faut se rappeler que juste il y a quelques jours, à la veille de Noël, un prêtre a été assassiné. Et avant cela, plusieurs religieux chrétiens ont été enlevés. Et donc, c'est la crise centrafricaine, la religion est au cœur de cela. Les mosquées servent de lieu de refuge pour des milliers de musulmans. Les églises servent aussi de lieu de refuge pour des chrétiens. Et les leaders religieux tentent comme ils peuvent pour organiser une certaine médiation. Et donc, ils se battent. Et nous avons justement fait un tour à certains de ces endroits, comme par exemple à la mosquée centrale de Bouar. Nous avons rencontré l'imam qui nous dit qu'il y a seulement quelques musulmans qui sont là et c'est lui qui les encourage à rester. Et tout près de Bangui, nous sommes sortis au PK13, qui est la commune de Bégoua. Et là, il y a une église là-bas qui s'appelle la paroisse Charles Luanga, la commune de Bégoua. Donc, et depuis le 5 décembre 2013, cette paroisse sert de camp pour les déplacés. Et nous avons rencontré le curé de la paroisse.
Bonjour à tout le monde. Je suis le père Anissé Senganambi, curé de la paroisse Saint-Charles Luanga de Bégoua. Je suis curé ici depuis 4 ans de cela. Nous sommes sur le site de la paroisse Saint-Charles Luanga de Bégoua, à 13 km du centre de Bangui. Maintenant, je vous invite à me suivre à l'intérieur pour que vous puissiez découvrir ce site-là.
Voilà, là, c'est Anissé.
C'est
bon. Il y a du côté.
Ah, vous avez le gars fait.
Depuis ce bangotter là, ce guisseau, merci, baba. Merci.
C'était depuis le 5 décembre avec le déclenchement de des hostilités. Et le nombre augmentait progressivement. On les mettait dans des salles, pensant que c'était une petite affaire qui allait finir vite. Mais curieusement, avec le temps, ça commence à se remplir. Et nous sommes arrivés à 8000, nous sommes arrivés à 15000, jusqu'à 22 700 personnes. Donc, on leur a mis des abris comme ça, des abris provisoires. Alors, attention, maman. Des abris provisoires.
Là, c'est quoi?
Ça, ce sont les toilettes. Là-bas, c'était les premières toilettes que les gens pensaient utiliser. Il n'y avait que deux. C'est les abris provisoires de ces personnes qui sont obligées de venir. Obligées de venir ici. Dans cette église, croyant en Dieu, disent que nous sommes sous la protection de Dieu. On peut avoir vingtaine, trentaine de personnes, tout dépend de la taille. Le soir, là, c'est plein à craquer ici. Je suis obligé de les accepter parce que je n'ai pas de choix. Moi, ça me rend triste que des gens qui ont leur chez-soi, qui se battaient, même s'ils ne sont pas hyper riches, mais ils se débrouillaient, pour avoir le moyen de vivre. Ce n'est pas des gens qui venaient manger chez nous. Mais aujourd'hui, à cause de la situation, les gens ont fui la mort pour venir ici parce que la situation est difficile. Tous ceux qui ont essayé de risquer de rester, ben, beaucoup, ils ont laissé leur vie, surtout les hommes. Ça me rend triste, mais j'ai oublié d'accepter la situation et de faire avec. Yagaga. Simbi Orange Nyanda. C'est ici que les malades sont consultés. Ben ici, c'est pour les enfants. C'est une petite pédiatrie ambulante. Voilà. Il y avait un groupe au niveau national qui est venu pour faire vaccin aux enfants, différentes sortes de vaccins. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement à ces enfants pour éviter certaines épidémies. C'est notre forage. C'est ce point d'eau-là qui nous aide. Et pour le moment, ça va, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il n'y a qu'un seul point d'eau. Pour plus de 15 000 personnes, ce n'est pas très pratique. Nous avons fait le tour. Si nous restons à nous accuser mutuellement, à dire musulmans, chrétiens, il n'y aura pas d'issue. Ce n'est pas un combat entre musulmans et chrétiens. Ce n'est pas un combat entre musulmans et chrétiens. C'est une histoire de politiciens qui se sont mal gérés. Dieu ne divise pas, Dieu rassemble. La religion ne s'impose pas. Elle se propose et c'est la liberté de chacun d'y accéder ou pas. Alors c'est ces histoires qui nous dévient de la réalité et cherchons maintenant à combattre le vrai mal. Comme ça, nous pouvons avoir un lendemain meilleur.
Des histoires qui nous dévient de la réalité. Visite guidée avec le père Anicet Bagassi. En fait, nous avons fait état ces derniers mois de toutes ces décisions d'ordre militaire, politique, diplomatique. Mais sur le terrain, qu'en pensent vraiment les Centrafricains?
Tout ce que la communauté internationale a fait jusqu'à présent, les gens saluent ça, mais ils trouvent que ce n'est pas suffisant puisque, évidemment, les violences continuent. Mais vous savez, une chose qu'on dit le plus, c'est que c'est un conflit entre chrétiens et musulmans. Eh bien, nous avons voulu en savoir plus. Je me suis rendu à l'université de Bangui donc, pour rencontrer le recteur de l'université, qui est le professeur Bobosi Serengwe. Il nous donne sa version de l'origine du conflit centrafricain.
Quand l'organisation Seleka a vu le jour en 2012, ils avaient pour objectif de prendre le pouvoir et de contrôler le pétrole. Pour preuve, quand le président Ndoutoudia a pris le pouvoir, il a créé un ministère du pétrole, sans pour autant que la RDC soit un pays du pétrole. Il avait déjà créé ce ministère et a affecté ce ministère à un ministère d'État. Donc il a fait rêver son peuple. La crise est arrivée là, et quand la CELIC a pris le pouvoir, ils se sont eux-mêmes attaqués au symbole du christianisme. On a eu l'impression que la CELIC était venue prendre le pouvoir au nom des musulmans, sans que les musulmans s'y attendent. Et il y a eu des tentations. Beaucoup de gens ont pensé que la CELIC était un gouvernement fait pour défendre et sauver les musulmans. C'est une impression qui s'est dégagée. Et petit à petit, il s'est installé une méfiance entre les groupes ethniques. Les chrétiens, à partir de ce que la CELIC a fait, à partir de ce qui a été dit, et à partir de ce qu'ils vivaient, la réaction, d'oppression des chrétiens, à travers tout ce que nous vivons, les assassinats, les arrestations arbitraires, la non-collaboration, la violation des règles élémentaires de collaboration entre ces ethnies, les gens se sont doutés de la CELIC. Et cette CELIC, qui était un mouvement militaro-politique, apparaissait comme une entité d'obédience musulmane. Et donc, à partir de là, la méfiance s'est installée. Et comme il y avait déjà un sentiment de méfiance entre les groupes ethniques, il s'est installé une réaction de révolte. Donc, de manière légitime, les anti-Balaka sont nés dans cette ambiance de doute qui s'est créée entre ces deux ethnies. Et ils avaient pour cible de renverser Ndoutoudia. Et c'est ce qui s'est fait par la pression militaires qu'ils ont mis, malheureusement, que quand la CELIC Ndoutoudia a démissionné, c'était la grande surprise du peuple et le peuple a voulu se venger. Et comme la CELIC a été toujours armée, ils se sont vengés contre leurs frères, les musulmans, qui étaient des vrais Centrafricains.
Le décryptage du professeur Serengbe a l'occasion également de parler du rôle des États-Unis. Washington vient de nommer l'ambassadeur Symington en tant que représentant spécial pour la République centrafricaine. Un mot sur lui, Bagassi?
Oui, Stuart Symington connaît bien le continent. Il a été diplomate, notamment ambassadeur au Rwanda. Il a été en poste au Niger et aussi à Djibouti. Et donc, il va être chargé donc, de coordonner les efforts des États-Unis en matière de résolution de la crise centrafricaine, mais aussi en matière humanitaire. Vous savez, les États-Unis ont déjà donné 100 millions de dollars pour les efforts de maintien de la paix, aussi 67 millions pour des efforts humanitaires.
On vient d'entendre un professeur, mais cette crise affecte également les étudiants. Que se passe-t-il dans le secteur éducatif?
Oui, le secteur éducatif, comme d'ailleurs tous les autres secteurs de la Centrafrique, le secteur éducatif est très, très touché et les écoles publiques sont fermées. Mais la seule université centrafricaine, l'université de Bangui, tient toujours malgré la crise. Et nous sommes allés à la rencontre notamment du professeur Mbétide Bessane Emmanuel. Il est le doyen de la faculté de l'école de droit.
La première des choses qu'on avait faites, c'est de revoir les tranches horaires. Parce que compte tenu de la situation, on ne pouvait pas maintenir les étudiants sur le campus comme on le faisait entre-temps jusqu'à 19h30, 20h. Donc aujourd'hui, les cours terminent sur le campus vers 17h30, le temps que les étudiants rentrent chez eux, compte tenu aussi de la distance, parce que vous savez qu'il y a certains étudiants qui sont aussi des déplacés, donc le temps qu'ils quittent pour venir sur le campus, sur le cours, le temps qu'ils repartent, on s'arrange à ce qu'ils rentrent chez eux avant la tombée de la nuit.
Voilà, comme on peut le voir, hein, l'université souffre de la crise. On écoute aussi deux étudiants qui nous expliquent leurs conditions d'études. Il s'agit de Roland Oliveira Sokombi et de Christine Kouyamba.
Il n'y a aucun collègue musulman parmi nous. Et nous-mêmes, nous sommes frustrés. C'est à cause de cette crise-là. Avant, nous étions ensemble. Nous évoluons ensemble. Mais bizarrement et brusquement, nous sommes vraiment déçus de voir aucun collègue musulman parmi nous. Donc, nous ne pourrons rien faire, mais nous demandons à ce que la paix revienne pour que ses collègues puissent revenir, pour qu'ensemble nous puissions étudier pour développer notre pays. À l'université, il n'y a pas de problème. Nous, étudiants, on ne peut pas prendre notre temps pour lyncher nos collègues. Nous sommes des frères, nous sommes des amis, nous sommes des intellectuels, nous ne pouvons pas le faire. Mais en quittant leur domicile respectif pour venir à l'université, vous savez, dans les quartiers, il y a les anti-Balaka, il y a la Seleka. Donc partout, les gens ont eu peur pour qu'ils soient agressés. C'est pourquoi vous ne voyez pas nos collègues musulmans parmi nous. Mais ils ne sont pas chassés hors de l'université. Mais c'est la situation du pays qui les a contraints de ne pas venir étudier avec nous.
Nous avons peur même de quitter la maison. Nos parents ne sont pas du tout contents, mais on est obligé, compte tenu du souci de notre réussite, on sera obligé d'y venir. Mais la peur est là, on a toujours peur pour venir prendre les cours, mais on est obligé de faire avec parce que c'est le pays et c'est vraiment nous sommes soucieux de notre réussite, nous sommes obligés d'y faire avec. Surtout pour nos collègues musulmans, d'autres sont partis, d'autres ont même perdu la vie, ils ne sont pas parmi nous pour l'instant, donc ça nous écœure, ça ne nous fait pas du bien. Donc il y a pas mal de nos collègues, d'autres qui ont des difficultés financières, ne pouvant plus continuer, sont restés à la maison, donc ça ne fait pas bien.
Témoignage de deux étudiants. Je parlais de ces religieux centrafricains qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour venir en aide à leurs compatriotes. Récemment, la VOA a donné la parole aux trois principaux leaders religieux de ce pays lors de leur passage dans la capitale américaine. De votre côté, Bagassi, vous avez également rencontré un imam centrafricain.
Oui, il s'agit de Mohamedou Modibo. Il est l'imam de la mosquée centrale de Bouar, donc à 450 km à l'ouest de Bangui. Mais il est aussi le patriarche de la communauté musulmane. Et il dit que donc, la mosquée est sous surveillance. Ils vivent comme dans une prison.
Ici, nous sommes comme des prisonniers. Nous tournons en rond dans le quartier. Aller en ville ou faire 2 km dans la forêt, c'est interdit. Nous ne pouvons pas travailler. Comme vous voyez là, nous sommes bloqués dans le quartier. C'est ce qui nous dérange. Nous ne savons même pas pourquoi cette situation. Depuis que la RCA existe, nous n'avons jamais vu ni entendu de problème entre chrétiens et musulmans. Nous sommes comme des frères et sœurs. Beaucoup de nos gens ont fui pour venir se réfugier à la mosquée. C'est la miska qui les protège jour et nuit. Petit à petit, les gens quittent le pays pour le Cameroun. Actuellement, ceux qui sont restés, c'est moi qui les calme en leur disant que nous sommes près du dénouement. Ceux qui sont partis vont revenir nous retrouver et ensemble, nous allons reconstruire le pays. Si nous sommes restés, c'est pas pour le plaisir. Tu peux pas bouger. Tu n'as rien à manger, l'agriculteur ne peut pas aller au champ, les éleveurs ont tout perdu. Il faut que le gouvernement se penche sur ce problème. Sinon, nous qui sommes restés, on va aussi partir. Et si nous partons tous, le pays est perdu.
Voilà d'autres témoignages dans un instant. Nos Facebookers nous feront également part de leur point de vue dans une petite minute. Vous suivez Washington Forum sur la VOA. Jacques Aristide en compagnie de Bagassi Koura pour une édition spéciale RCA. N'allez nulle part ailleurs. Nous vous retrouvons après la pause.
La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable.
La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes.
La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes.
La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres, de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat.
La VOA, toujours au cœur de l'actualité.
Toujours avec vous.
Restez informés.
Un Washington Forum consacré à la République centrafricaine. Gros plan sur le récent séjour de mon collègue Bagassi Koura dans le pays. Avant d'y revenir, quelques-uns de vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Et je commence par Jacques Metsibanga de Bangui. La seule issue de la crise est la réconciliation des communautés musulmanes et chrétiennes et d'éviter à tout prix la partition du pays. Pour cela, il faut désarmer sans ménagement les anti-Balaka et cesser le transfert des musulmans du Sud vers le nord du pays. Yara Emmanuel de Bangui également, en tant que centrafricain, je serai à l'écoute. Mais si la communauté internationale tarde à envoyer la force de l'ONU, le pire risque de se produire dans les provinces. La France actuellement est débordée et en passe d'échouer. Une main invisible nord de la RCA tire trop sur la corde des Séléka. Les choses risquent de capoter. Des commentaires qui traduisent un petit peu le sentiment sur le terrain, n'est-ce
oui,
pas Bagassi?
Le sentiment sur le terrain, les gens ont peur que le fait qu'on déplace les musulmans dans certaines parties du pays, que ça puisse contribuer à renforcer la partition de fait du pays. Et donc, les gens veulent à tout prix éviter cela.
Abordons également la tâche herculéenne des humanitaires en RCA. Il s'agit là, Bagassi, d'une opération de longue durée.
Oui, à ce niveau, il faut dire, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Beaucoup reste encore à faire. Il faut s'occuper d'abord de se déplacer sur tous les plans sanitaires, alimentaires, voilà, tous les plans. Et donc, à Bangui, par exemple, l'administration n'est pas encore en marche totalement, alors que c'est la capitale, elle fonctionne partiellement. N'en parlons pas du reste du pays où l'administration est totalement absente. C'est vrai, on a commencé à déployer des gendarmes dans certaines parties du pays, comme à Bria ce matin. Mais un des fléaux qui touche le pays, c'est bien sûr la malnutrition des enfants et les humanitaires doivent y faire face. Le PAM, notamment, contribue à aider les populations qui ont besoin de ressources pour s'occuper de leurs familles. Et nous avons justement assisté à l'un de ces événements, à la distribution de vivres du PAM, et c'était à boire.
C'est, dit-on, le jour que tous les déplacés ici attendaient. Des centaines de déplacés de Bouare ont rendez-vous aujourd'hui avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui va distribuer les rations mensuelles. Mais ici, la crise alimentaire est générale. Déplacé ou pas, tout le monde est là. Au fil des heures, le nombre grossit, la tension monte. Et les éléments de la MISCA, la force de l'Union africaine en Centrafrique, y vont à leur manière pour calmer la foule. Petit à petit, on arrive à ramener un semblant d'ordre. Dans cette foule réunie devant la cathédrale de Bouare, Madeleine Kimoboussa attend elle aussi. Pour rien au monde, cette mère de 6 enfants n'aurait raté ce rendez-vous. Cela fait plusieurs semaines que Madeleine a fui son village.
La Séléka a tué toute ma famille. Mes tantes ne sont plus là et je ne pouvais pas rester là-bas. Raison pour laquelle je suis venue ici à Bouare.
Michel Souroubaï, âgé de 59 ans, est père de 8 enfants. Lui aussi n'a rien pour nourrir sa famille.
Dans cette crise, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne peux pas tout citer. Il y a une crise alimentaire. Certains membres de ma famille ont fui dans la brousse. Je suis allé les voir, d'autres sont malades.
Tout le monde attend la chance d'être appelé. Et c'est le moment que Madeleine attendait. Sa dotation, un sac de 50 kg de riz, 10 kg de haricots, 2 litres d'huile et 15 sachets de pâte d'arachide nutritive. Le temps de sortir de l'enceinte, Madeleine se rend compte que l'un de ses sacs avait disparu.
Il a volé nos sacs d'haricots.
Avec l'aide des autres femmes, le voleur est vite repéré. Madeleine récupère son sac de haricots, mais là encore, sa joie est de courte durée. Son bidon d'huile vient lui aussi d'être volé.
Chaque fois que nous venons ici, c'est la guerre. Le problème ne vient pas des femmes, mais plutôt des hommes. Et ils veulent que nous, les femmes, soyons toujours perdantes.
Après une matinée très mouvementée, Madeleine est heureuse d'enfin retourner chez elle.
Ce matin, je me suis réveillée avec seulement 100 francs. Le plus important, c'est acheter des beignets pour les enfants pour que certains puissent aller à l'école. Vraiment, je suis très contente. Si j'avais ça depuis, mes enfants n'auraient pas souffert. Vraiment, je suis contente. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance.
Avec ces nouvelles provisions, Madeleine espère nourrir sa famille jusqu'à la prochaine distribution de vivres.
Un pays meurtri, mais l'espoir est-il permis, Bagassi?
Oui, je pense que les gens ils ont un sentiment de perplexité, c'est-à-dire que il y a des groupes armés que la majorité de la population ne contrôle plus. Les gens veulent la paix, mais ces violences qui interviennent chaque jour ne dépendent pas d'eux. Et donc, pour l'instant, les gens attendent la communauté internationale, que cette communauté mette plus de moyens pour parvenir à la paix.
Voilà. Donc, en fait, on devait entendre...
Ici, nous sommes là pour encadrer les enfants en général. Vous savez, avec la crise que la Centrafrique a vécue, les enfants sont traumatisés. Nous sommes là pour les encadrer, pour les déstresser, un autre thème, pour les déstresser et les aider à apprendre, parce que c'est eux qui vont gérer le pays demain. Donc s'ils continuent avec cette idée de guerre, ce pays ne serait jamais stable. Donc il faut dès le bas âge former les enfants, les déstresser. Donc c'est un programme informel que nous avons ici en général. Ce n'est pas un programme scolaire normal, informel, pour apprendre aux enfants la réconciliation, le pardon, la culture sur la paix, et l'amour de son prochain. En général, dans les normes, quand tout se passe bien, on a 1700 enfants par jour.
20 heures
10
ou 1
17 heures,
une fois, combien de fois
6 fois.
10 fois. Lecture maintenant, allez-y.
Ça dépend vraiment des difficultés. Ça se ressentait. Les enfants qui disaient qu'ils ont perdu leurs parents, leurs frères. Je me rappelle un enfant à l'étape 13 qui disait qu'il ne va jamais pardonner les musulmans. Mais avec le temps, quand il a appris, et puis avec la semaine, la journée culturelle que nous avons eue ici, l'enfant a appris que c'est on peut pardonner. On peut pardonner. Donc il y a un changement. Mais au départ, tous étaient vraiment perturbés, tous étaient vraiment touchés. Ils avaient vraiment vécu parce qu'ils ont vu le corps, ils ont vu comment on tuait les gens. Donc tous étaient vraiment stressés. Et avec ce programme qu'on a mis en place, grâce à UNICEF et grâce aux parents aussi qui ont permis de laisser les enfants venir.
Voilà, des petits anges. Malgré les affres d'une crise qui dure depuis plus d'une année en République centrafricaine, l'espoir est là. Mais pour conclure, Bagassi, revenant de votre déplacement en RCA, avez-vous le sentiment que les Centrafricains et les Centrafricaines se préparent plus à la paix, ou plutôt, et c'est malheureux, à une détérioration de la situation, voire à une scission du pays, même si nous ne voulons pas évidemment prononcer ces mots?
Non, pas du tout. Les gens ne veulent pas la scission du pays. C'est vrai qu'on a l'impression que les communautés n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à vivre ensemble, mais malgré tous ces affrontements qui ont lieu chaque jour, les gens veulent toujours vivre ensemble. Mais le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les gens n'ont pas, la majorité des Centrafricains n'ont pas le contrôle de la situation, et donc la grande majorité a l'impression qu'elle n'a pas le contrôle de la situation et attend donc impatiemment le déploiement des casques bleus. Malheureusement, on va attendre jusqu'en septembre, ce qui semble assez loin vu les événements qui se déroulent chaque jour.
Voilà, il faut encore attendre. Merci à Bagassi Koura. Petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue nos amis de Raga TV à Bukavu, au Congo-Kinshasa. Voilà, Washington Forum prend fin ici. Mille merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.